West.
Cop West.
Chaque lundi et jeudi à 20h.
Simon Rongoat, Katel Lagré.
Bonsoir Katel Lagré.
Bonsoir Simon Rongoat.
Elle est de retour, vous étiez inquiété lundi, mais t'es tout seul Simon, qu'est-ce qui se passe? Ne s'inquiétez pas, Katel a fait une petite pause, parce qu'elle se régénère toujours Katel, avant le derby.
Ah oui, j'ai besoin.
Et samedi, c'est derby. Football Club de Nantes, Stade Rennais à la Beaujoire, on en parle avec notre grand témoin du jour, Étienne Didot Katel.
Ouais, 177 matchs en rouge et noir, puis l'affilée à Toulouse, puis à Guingamp. Étienne Didot, invité de Cop West ce soir pour parler de ce derby, de ce match cauchemardesque face à Toulouse des rouges et noirs.
Les dernières infos côté supporters également, avant ce Nantes Rennes. Et puis, on parlera des Lorientais qui vont jouer un peu avant tout le monde et essayer de rattraper cette journée qu'ils ont en retard après le match qui a été repoussé face au Paris Saint-Germain. Enfin, le Stade Brestois va défier Monaco avec dans le viseur cette deuxième place de Ligue 1. C'est parti.
Chaque lundi et jeudi,
c'est Cop West sur It West.
Mais on commence, comme promis, avec Étienne Didot. Salut Étienne.
Bonjour.
Merci de passer quelques minutes avec nous. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça rappelle d'excellents souvenirs. Tu étais un client régulier de Cop West quand tu jouais à Rennes. Rennes où tu étais dimanche pour cette purge face à ton autre ancien club Toulouse. On va en reparler. Mais d'abord, l'actu, c'est le derby. Évidemment, Nantes-Rennes, samedi 17h. Tu en as joué plusieurs des derbies avec Rennes, ou à Rennes ou à la Beaujoire. Quel est celui qui t'a le plus marqué, Étienne, même si moi j'ai ma petite idée?
Oui, bah oui, non, c'est assez simple pour moi, même si j'en ai joué beaucoup. Il y en a un qui a été très important, c'est le premier derby. C'était une saison compliquée qu'on avait mal entamée. J'ai eu la chance d'être titularisé. Je crois que c'était avec le coach Bergerot. Mm-hmm. Et j'avais été titularisé avec Stéphane Nguema, donc on était les deux jeunes de ce derby-là. On le gagne à domicile 1-0, donc ça avait été vraiment un moment exceptionnel pour moi. Et ensuite, il y a évidemment la victoire à la Beaujoire, ça faisait énormément d'années qu'on n'avait pas gagné là-bas et j'ai eu la chance de marquer en plus. Donc oui, c'est, je vais dire le second, même si le premier c'était un moment fort pour moi, le second avec le but et à l'extérieur comme ça, c'était magnifique.
Janvier 2006, après 41 ans de disette, et on a vu le droit à la gavotte ce soir-là à la Beaujoire, hein, me semble-t-il.
Ouais, bah oui, bien sûr, évidemment, ouais, c'était avec grand plaisir que j'ai pu la danser là-bas. Il y avait ma famille au match aussi, il y avait les amis qui étaient là. C'était vraiment un beau moment. Je me rappelle encore le parquage de nos supporters qui explosait. Franchement, ce sont des super souvenirs.
Alors le parquage, là, il va être réduit. 500 supporters Rennes et Maxi. Du coup, le RCK a dit, bah, puisque c'est comme ça, on n'ira pas. La tribune noire, elle est à huis clos. Comme ambiance de derby, on a connu mieux. Hein.
Ouais, non, ça c'est horrible. Hein. C'est horrible pour le foot. Enfin, je ne sais pas si tous les joueurs sont comme ça, mais moi, vraiment, je vivais pour ça. Le plus grand plaisir que j'avais de jouer au foot, c'était de voir les stades pleins, de voir les supporters, de voir cette ambiance. Donc, dès que c'est affecté, dès qu'il n'y en a pas, voilà, pour moi, ça détruit un petit peu le football. Mais malheureusement, des fois, il n'y a pas le choix non plus parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas arriver dans les stades ou à l'extérieur et des sanctions. Mais voilà, le football, c'est les supporters avant tout. Donc, c'est triste qu'ils n'y soient pas.
Alors, les Rennais vont arriver à Nantes un peu la tête dans le seau après 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Et puis, ce match catastrophique le week-end dernier face à Toulouse. Une défaite 2-1, la troisième consécutive en Ligue 1. Surtout, un contenu très inquiétant. Tu étais au Roison Park. Qu'est-ce que tu t'es dit en voyant ces Rennais, Étienne?
Oui, c'est vrai. J'étais au match. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus comme ça en direct. J'ai suivi la saison, bien évidemment. Il y avait eu un regain de forme. L'équipe revenait bien. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais que j'étais plus déçu par la deuxième mi-temps que par la première, parce que l'entame de match n'est pas quand même mauvaise. Ils arrivaient à ouvrir le score. Il y avait quand même de l'allant, même si tout n'était pas fluide. C'est vrai qu'en seconde période, c'était très compliqué. Et j'ai senti les joueurs ne pas trouver de solution, de pas pouvoir emballer le match, ne serait-ce que 5 minutes. Donc ça, c'est compliqué. On peut avoir une mi-temps compliquée, difficile, mais par contre, il faut arriver à trouver de temps en temps un temps fort, que ce soit par un pressing ou par une possession du ballon, mais sur cette seconde période, ils ne l'ont pas trouvé. Donc c'était vraiment bien sur la deuxième.
Ils ont été incapables de réagir après l'égalisation et encore moins après le deuxième but des Toulousains. Et ça, c'est assez récurrent, c'est-à-dire qu'on voit une équipe qui perd complètement confiance, qui se liquéfie dès que ça tourne mal. C'est mental,
ouais,
c'est quoi? C'est un problème de caractère, c'est quoi?
Non, je pense que non, parce que l'équipe a prouvé. L'équipe a eu un moment compliqué dans la saison. Ils ont trouvé le moyen de revenir dans ce championnat, donc ils ont du caractère. Je pense que c'est trouver le déclic, trouver les clés à l'intérieur même d'un match ou à l'intérieur même d'une mi-temps pour rebondir en fait. Donc c'est aux joueurs un peu cadres de, de prendre normalement ça en main. Si techniquement, il n'y a pas un joueur qui est capable de booster, d'amener tout le monde avec lui, eh ben c'est les cadres qui doivent trouver les moyens de parler sur le terrain. Je te disais tout à l'heure, ça peut être sans ballon. Hein. Des fois, quand ça marche moins bien, ça peut être par des pressings, ça peut être par des comportements. Et voilà, faire plus d'efforts et plus d'intensité à certains moments pour revenir dans un match.
Et puis on a souvent pointé du doigt la défense depuis le début de saison, mais bon, on va pas refaire le mercato d'été, hein, on va surtout attendre le prochain pour le coup. Mais l'attaque, ça fait 4 matchs sans but pour Guiri, 5 pour Cali. Quand tu regardes les stats du match, par exemple, il n'y a aucun hors-jeu sifflé pour les Rennais. Ça dénote quand même un certain manque de prise de profondeur, non?
Oui, bon, après quand il y en a trop, ils se font engueuler aussi. Non, c'est plutôt la panne sèche de but qui fait un peu peur et qui en dit long sur la période compliquée du club, parce que ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sentent le but, c'est des joueurs qui sont fins techniquement, très adroits. Donc voilà, quand on voit qu'ils n'arrivent pas à marquer, c'est vrai que ça montre que l'équipe est en difficulté.
Tu disais tout à l'heure, ils ont relevé la tête et c'est vrai qu'ils ont beaucoup cravaché quand Julien est arrivé pour remonter au classement. Est-ce que c'est pas un contre-coup finalement qu'il peut y avoir maintenant ?
Si, c'est possible. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on peut pas dire que cette équipe manque de caractère vu ce qu'elle a fait et la série qu'ils ont enchaînée à l'arrivée au retour de Julien. Donc c'est qu'ils en ont, mais peut-être un contre-coup, effectivement. Après, on sait bien que le club, historiquement, il y a tout le temps des hauts et des bas dans une saison. Et je pensais qu'ils allaient finir vraiment fort, qu'ils allaient tenir jusqu'à la fin. Mais on voit là que sûrement, ils ont puisé énormément durant une période. Et là, ils payent un petit peu ça. Ouais.
Alors mathématiquement, c'est pas mort pour l'Europe, hein, même si on y croit de moins en moins parce que la dynamique n'est pas bonne. Mais finalement, les Rennais sont 10e, 39 points, à 2 points de la 7e place. 4 de Lens qui est 6e et qui cale un peu aussi. Lens et Reims ont perdu le week-end dernier. Bon, Nice n'a pas joué. Tu sens ces Rennais là capables d'aller accrocher la 7e si jamais le PSG bat Lyon, et même peut-être même que Lyon d'ailleurs sera dans les 6. Donc en finale de Coupe de France, ou la 6e place ?
Ouais, je l'espère en tout cas. C'est ce que j'espère pour le club. Après, c'est vrai que cette série-là fait un petit peu peur, donc il y a la crainte qu'ils n'y arrivent pas, mais ils en sont capables, ils en sont largement capables. Donc là, il y a ce derby. Moi, je trouve qu'il tombe parfaitement, parce que l'équipe a besoin d'un déclic pour repartir, et quoi de mieux qu'un derby pour repartir. Donc s'ils sont amenés à faire un bon résultat ce week-end, je pense qu'ils accéderont à une qualification pour une Coupe d'Europe. Ce derby va être très très important.
Il y aura Nantes et puis il y aura l'autre derby, le derby face à Brest. Un mot quand même de ces Brestois, dauphins du PSG, bien partis pour accrocher une Ligue des Champions, avec des joueurs qui sur le papier sont inférieurs à bon nombre de joueurs qui trustent les premières places. Mais par contre, alors là pour le coup, ils sont tous au-delà de leur niveau, en tous les cas au taquet de ce qu'ils peuvent faire individuellement.
C'est la beauté du football, hein. Franchement, c'est exceptionnel. Je trouve que ce que fait Brest, c'est énorme. Ce qu'ils ont réussi à créer en tant que collectif, c'est énorme. Et tous les joueurs arrivent à être en forme au même moment. Et j'entendais des gens dire il y a quelques semaines ou quelques mois, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et ça ne s'arrête jamais. Donc, ils ont encore fait un match énorme. Ils ne méritent pas de perdre pour moi à Lyon l'autre jour. Le travail qu'a effectué cette année le Stade Brestois est énorme. Et j'espère qu'ils iront au bout parce qu'ils le méritent.
Étienne, tu vis désormais au Chili, le pays de ta femme, et tu bosses notamment pour le LOSC sur toute l'Amérique du Sud. C'est quoi ce boulot ? C'est aller superviser, dégoter des joueurs ? À quoi ça ressemble ?
Oui, c'est exactement ça. Je travaille pour le recrutement du groupe professionnel au LOSC sur l'Amérique du Sud. Donc, je suis en charge des pays comme le Brésil, la Colombie, l'Argentine, l'Uruguay, voilà tout ce qui se fait de là-bas. On sait que c'est très riche en talent et en footballeurs. Il y a vraiment c'est une culture folle du football là-bas aussi. Et voilà, en vivant là-bas depuis quelques mois maintenant, j'ai la chance d'être au plus proche. J'y voyage depuis, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je voyage là-bas, donc je connais pas mal de monde là-bas et je suis un œil un petit peu du LOSC sur le continent sud-américain.
C'est quoi qui est dur quand on arrête ? C'est le ballon qui manque, c'est l'ambiance, c'est la notoriété, c'est d'avoir des semaines hyper réglées puis tout d'un coup il n'y a plus de mise au vert, il n'y a plus d'horaire d'entraînement, il n'y a plus tout ça. Qu'est-ce qui peut un peu vriller quand un foot arrête ?
Ce qui manque, c'est peut-être l'adrénaline. Je dirais l'adrénaline avant les matchs, voilà, c'est ça un peu qui manque. Il y a tellement une sorte de pression. Enfin, moi, je la vivais très positive, j'adorais ça. Et ça dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui peut te rapprocher de cette adrénaline des grands matchs, des grands soirs, des grands stades. Ça manque. Après, en général, j'ai eu aucun manque. Hein. Moi, franchement, ça m'a fait un bien fou aussi de passer plus de temps en famille, de partir en week-end aussi avec les enfants, etc. C'est des choses qu'on fait moins, de me caler sur les personnes, de pouvoir me caler sur les personnes pour partager des moments. Avant, on avait des obligations, même si le footballeur a une vie magnifique. Hein. On peut pas être de temps en temps le samedi avec les amis, etc., etc. Donc moi, j'en ai profité et j'en profite à fond. Mais c'est vrai, l'adrénaline des jours de match, on la ressent un petit peu quand on va supporter. Je sais pas, je vais à Rennes au match et je le vis un petit peu, le stade, etc. Mais quand on est joueur et qu'on rentre dans l'arène, c'est quand même quelque chose de fantastique.
Bon ben, l'adrénaline, elle sera à la Beaujoire samedi à 17h, on en est sûr. Bon retour au Chili, Étienne. S'il a envie de prendre de faire de la radio, tu nous appelles, tu es ici chez toi, tu le sais. Et puis,
Très bien, avec grand plaisir.
Et puis nous, on va essayer de continuer à croire aux chances du Stade Rennais, puis on se recroisera vraisemblablement sur un stade un de ces jours.
Ils gagneront le derby, ils vont bien finir.
Merci Étienne, c'est la prophétie d'Étienne Didot. Merci beaucoup Étienne.
Merci à vous.
Alors Katel, côté nantais, on a quelques petites infos, quelques petits doutes sur la compo des équipes et notamment la titularisation ou non de Kader Bamba. On dit de lui qu'il est un petit moteur, qu'il est un super sub, un super remplaçant. Est-ce que Comboiré va récompenser ce but marqué dans les derniers instants au Havre en faisant jouer directement Kader Bamba? C'est pas sûr, hein, il fera peut-être la dernière demi-heure. Kadewere, son état de forme, là aussi on a un doute. Et puis Nantes va devoir faire sans Mathis Ablin.
Oui, sans Mathis Ablin, puisque prêté par le Stade Rennais. D'ailleurs, il se murmure que Nantes s'offrirait bien... Ablin à la fin de la saison, ce sera une des affaires à suivre du mercato d'été.
C'est un prêt avec option d'achat, Rennes ayant la possibilité de faire revenir Ablin, même si Nantes veut racheter le joueur. Mais il faut faire un chèque. Bon, on en parlera en fin de saison, il a fait deux bons matchs, c'est peut-être un peu court pour l'instant.
Mais
c'est toujours pareil, en tout cas il a été décisif sur les dernières rencontres pour les Canaries qui jouent leur survie en Ligue 1, on vient d'en parler. Le Football Club de Lorient est à Nice dès demain soir.
Oui, déplacement compliqué pour les Merlus. Nice qui n'a pas joué non plus ce week-end, hein, qui jouera son match en retard à Marseille mercredi prochain, comme Lorient face au PSG. Déplacement à Nice sans le capitaine Laurent Abergel, touché au mollet, qui devrait manquer au moins Nice et le PSG. Abergel a joué tous les matchs jusque-là depuis le début de la saison, ça tombe très mal. En revanche, Talbi est proche d'un retour. Les Lorientais qui restent sur 4 matchs sans victoire et qui sont barragistes.
Ouais, Lorient qui se met un peu la pression avant cette rencontre-là, avec 5 points de retard sur le Football Club de Nantes désormais. On a déjà évoqué ensemble, Katel, le calendrier du Football Club de Lorient, ça va être très compliqué sur la fin de saison. Il y a la réception du PSG, match en retard, il y aura Lorient-Toulouse, déplacement à Lens, déplacement à Marseille et réception de Clermont. On peut imaginer qu'il y a les 3 derniers points contre Clermont qui sont accessibles.
Qui sera sauvé, Clermont.
Oui, mais il faudra en gratter ailleurs. Ouais. Et ça va être compliqué pour nos Merlus. Brest-Monaco, c'est The Match, dimanche à 17h, tout
le
en haut du classement.
Le match au sommet. Le Stade Brestois, 2e avec 53 points. Monaco, 3e avec un petit point de moins. On va voir comment les Brestois ont digéré l'énorme injustice de la défaite à Lyon. Pierre Lesmélou sera bien suspendu.
La commission n'a rien compris.
Voilà,
on a vu les images et elle a estimé cette commission que Lesmélou méritait un rouge. Bravo.
Voilà, bravo. Là on est sur du grand n'importe quoi. Ceci dit, cette semaine, l'entraîneur Éric Roy a reconnu quand même que certains de ses joueurs avaient du mal à gérer leurs émotions. On a eu l'occasion d'en parler déjà sur ces dernières semaines, mais c'est humain. Hein. Plus on avance dans la saison, plus le rêve se rapproche et plus ça se tend. L'autre aspect qui marche moins bien en ce moment à Brest, c'est quand même la défense.
Ouais.
Ils ont longtemps été meilleure défense. Entre Metz et Lyon, ils ont quand même encaissé 7 buts en 2 matchs. C'est autant que lors des 16 matchs précédents. Et Monaco, qui se présente à Le Blé, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat, avec 53 buts inscrits. Donc c'est là-dessus, à mon avis, qu'ils ont dû travailler.
Faut pas se crisper, c'est
non,
spectacle. Ils
oui.
ont fait leur saison et qu'ils continuent à nous régaler.
Mais tu sais, c'est comme quand tu es sur le point de gagner un match de tennis, t'as un peu petit bras.
Ils ont déjà gagné, ils vont être européens, Katel.
Mais
ils ont déjà gagné,
oui,
maintenant c'est
du
bonheur.
Ils veulent la Champions League.
Il faut se le dire comme ça. Mais ils l'ont, la Champions League. Moi, je te mets. Ah, bah bien sûr.
Ok.
C'est
bon
sûr.
Bah. Ils ont vous affolez pas, les gars. Alors.
Allez-y, les Brestois, faites-vous plaisir, offrez-nous du spectacle et tapez cette équipe de Monaco, bien sûr. Allez, on débriefe tout ça lundi, Katel. Ciao, ciao.
Ciao.
Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application itwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
Sur itwest.